un podcast France Culture.
Eh bien, ma foi, c'est avec science, c'est avec vous aussi, Alexandra Delbo, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
La sonde DART, elle a bien déformé sa cible.
Oui, souvenez-vous, en septembre 2022, cette sonde lancée à pleine vitesse est partie finir sa vie sur Dimorphos, la petite lune d'un astéroïde plus massif nommé Didymos. L'objectif de la mission était donc de tester nos capacités à dévier ce couple d'astéroïdes dans le cas très hypothétique où nous devrions le faire. Et je ne divulgage rien, ça a bien marché. Il y a trois succès à retenir de la mission DART. Première réussite, toucher une cible à 11 millions de kilomètres en connaissant seulement la taille de l'objet à impacter, en l'occurrence 150 mètres. Deuxième victoire, mener une campagne d'observation internationale au sol et dans l'espace. Et évidemment, troisième et dernière, dévier la trajectoire de Dimorphos autour de Didymos. Et ça se mesure en réduction de la période orbitale. Mais si la mission est bel et bien terminée, son analyse ne l'est pas encore. Patrick Michel est l'un des investigateurs de cette mission. Il est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et auteur de « À la rencontre des astéroïdes » aux éditions Odile Jacob.
Le problème qu'on a, c'est que, à part de savoir qu'on a réduit la durée que met la Lune pour tourner autour de son corps principal grâce à cet impact, et ça a été fait avec les observations depuis la Terre, eh bien, on ne sait pas quel est le résultat de cette déviation. C'est-à-dire que si on veut pouvoir extrapoler ce test à d'autres scénarios, il nous faut le comprendre complètement et l'interpréter de façon exhaustive. Et pour cela, on a besoin d'avoir deux choses au moins, à savoir dans quel état est la pauvre petite lune à la suite de cet impact, ce qu'on ne sait pas puisque la sonde DART a explosé dans cette lune et un petit CubeSat italien appelé Licia Cube nous a donné des images des premières minutes après l'impact, mais il se passait encore des tas de choses. Donc on ne sait pas dans quel état est cette lune. Et la deuxième chose, c'est que même si on a réduit la période orbitale de 33 minutes, on ne sait pas vraiment si la méthode est efficace parce que l'efficacité dépend de la masse de cette petite lune.
La lune est-elle légère? Auquel cas la mission était facile, entre guillemets. Est-elle lourde? Et là, on pourrait véritablement parler d'efficacité. Et la première étape d'analyse de performance est de comprendre comment sa forme a changé.
Et pour ça, il faut comprendre comment était sa forme au départ.
Exactement, et ça a été fait un petit peu sur le tard, parce qu'il a fallu attendre les toutes dernières minutes avant l'impact pour avoir des images. C'est à ce moment-là qu'on a su que Dimorphos était initialement un sphéroïde oblate, c'est-à-dire en forme de soucoupe volante ou de Smarties, ce qui par ailleurs était déjà assez inattendu. Vient ensuite sa forme après l'impact, grâce à des données d'observation du couple d'astéroïdes depuis la Terre et de modélisation de son évolution. Une nouvelle étude parue dans The Planetary Science Journal a construit un modèle numérique de forme. Résultat, Dimorphos est déformé. Cette lune s'est encore un petit peu aplanie. C'est à présent un ellipsoïde triaxial. Et cela confirme les bonnes prédictions d'une autre étude parue dans Nature Astronomy il y a un mois et dont ce chercheur est co-auteur.
Les données qu'on a maintenant à partir d'observations au sol nous disent que Dimorphos ressemblerait plutôt à un ballon de rugby. Donc on a modifié sa forme due à l'impact. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en parallèle, on a effectué des simulations d'impact de DART sur Dimorphos, cette fois-ci en prenant comme condition initiale celle effectivement produite par la sonde. Donc on avait la vitesse, la taille, la masse de DART, mais aussi la forme initiale de Dimorphos qu'on n'avait pas avant ce test. Et on avait aussi les premiers résultats fournis après l'impact par les images de la petite sonde italienne Licia Cube et bien sûr la quantité d'éjecta estimée par les observations avec les télescopes James Webb et Hubble dans l'espace qui nous ont permis d'estimer la quantité de poussière émise par l'impact. Et en prenant toutes ces données, eh bien la seule façon d'expliquer ce que l'on a vu, c'est que on a effectivement affaire à un objet qui est très fragile et qu'on a complètement déformé. Et ça, on l'a trouvé avant même que les observations nous disent qu'effectivement, il semble que ce soit le cas.
Et c'est presque le plus intéressant. Pas que la Lune ait changé de morphologie, mais que les calculs et prédictions soient cohérents avec les observations. Et c'est essentiel pour la suite. Cela montre notamment que les petits astéroïdes sont assez fragiles. La limite, bien sûr, c'est que ces modélisations sont faites à partir de données encore partielles. Ce n'est pas une photo et les observations au sol ont encore des incertitudes. Et donc, la prochaine étape, c'est de se rendre sur la scène de crime, de retourner voir ces deux objets avec la la mission ERA de l'Agence spatiale européenne. Pour l'instant, des tests de vide thermique sont en train d'être réalisés pour simuler l'environnement spatial. Le lancement, quant à lui, est prévu pour octobre de cette année.
Merci Alexandra, je ne regarderai plus les astéroïdes de la même façon grâce à vous.